quoi de neuf là-haut avec le chaos.
La vue panoramique sur le sur la Terre.
Cinq, quatre, trois, deux, un.
Bonjour, vous êtes sur RVR pour notre émission Quoi de neuf là-haut avec le chaos. Bonjour Aurélie.
Bonjour Olivier.
Alors, nous sommes dans l'actualité. De quoi souhaites-tu que l'on parle ce mois-ci ?
Eh bien, l'actualité de ce mois-ci a été marquée par la mission lunaire Artemis 2. Moi, je souhaiterais qu'on revienne en détail sur les objectifs et le déroulé de cette mission, Olivier.
Eh bien, avec plaisir, ça a été une émission que nous avons suivie sur Radio Raval de Rhin quasiment jour par jour. Et là, c'est bien de faire un peu le point maintenant que la mission est terminée. Donc la mission s'est déroulée du 1er au 11 avril dernier. L'objectif, c'était de réaliser un tour de la Lune, mais un tour en s'éloignant à plus de 400 000 km de la Terre avec 4 personnes à bord. C'était à bord de la capsule Orion. Il fallait donc valider tout le matériel en attendant que des futurs astronautes marchent sur le sol lunaire. Et la dernière mission de ce type avait été réalisée en décembre 72, il y a donc 55 ans.
Là, on parle de Artemis 2. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur la mission Artemis 1 qui a forcément existé ?
Eh oui, c'est bien, il y en a qui suivent. Donc effectivement, Artemis 1 a eu lieu, c'était en 2022 déjà, du 16 novembre au 11 décembre 2022. Donc c'était le même matériel, exactement pareil, mais il n'y avait personne à bord. Donc la trajectoire était automatique, c'était une capsule test, et à l'intérieur, il y avait en fait des mannequins, pour tout dire, qui étaient bardés de capteurs pour analyser les radiations cosmiques. Et là, il s'était aperçu qu'il y avait un problème avec le bouclier thermique dont des morceaux s'étaient détachés. Et donc, ils ont fait des corrections pour que ça ne se passe plus sur Artemis 2.
Donc, Artemis 1 leur a permis, on va dire, de résoudre les problèmes rencontrés. Et comment s'est déroulé le départ d'Artemis 2 ?
Alors, comme souvent, maintenant on le sait pour les fusées, le départ a été reporté, même reporté plusieurs fois. Et puis, Il devait partir au mois de mars, et puis il y a eu une fuite d'hydrogène. Donc la fusée géante, la SLS, a été obligée de retourner au bâtiment d'assemblage. Donc le temps de la remettre au bâtiment d'assemblage, de vider les réservoirs, de tout réparer, de la remettre sur le pas de tir, il a fallu un mois de retard de tir.
Bon, à la fois, ça fait beaucoup parce qu'on était impatients, mais à la fois, ça a été rapide pour faire tout ce qu'ils avaient à faire.
Oui, c'est vrai.
Cette fusée dont tu parles, elle est différente des fusées utilisées pour desservir la station spatiale internationale ?
Oui, elle est différente à plusieurs points de vue. D'abord, c'est une fusée NASA, alors que aujourd'hui, les fusées qui desservent la station spatiale internationale, c'est des fusées SpaceX.
Eh oui.
Donc, c'est pas les mêmes fusées. Et puis, cette fusée ne doit pas desservir la station internationale, doit aller sur la Lune. Enfin, autour de la Lune, donc il faut une fusée beaucoup plus puissante que les fusées SpaceX actuelles. Et donc, c'est une fusée dont ils se sont servis de la technologie des navettes spatiales. Donc, ils ont repris un peu les technologies, ils ont repris les moteurs de la navette spatiale, ils ont repris les boosters de la navette spatiale. Elle fait 98 mètres de haut.
C'est quand même elle est imposante.
Un sacré engin. Et pour rappel, il y a 50 ans, quand c'était les fusées Saturn V, dont on parle dans les émissions Histoire, qui amenaient les astronautes sur la Lune, elle faisait 110 mètres de haut. Mais son moteur était au kérosène. Aujourd'hui, le moteur de la nouvelle fusée est à l'hydrogène, donc beaucoup plus propre.
Tu nous parles de nouvelles technologies. Il y en a d'autres sur cette mission, justement ?
Oui, alors il y a une nouvelle fusée, même si elle s'inspire des technologies navettes, elle est quand même une nouvelle fusée. Et puis il y a une nouvelle capsule, parce que ceux qui vont à la station spatiale internationale, c'est la capsule SpaceX.
Eh oui.
Donc la capsule NASA, c'est une capsule qui s'appelle Orion, et donc ils n'avaient pas fabriqué de capsule depuis Apollo. Donc depuis 50 ans, ils n'avaient plus fait de capsule. Donc il faut tout reprendre, tout refaire. Et alors une grande nouveauté dans cette capsule Orion, il y a plein d'électronique bien sûr par rapport à Apollo, enfin là, je te passe les détails, mais il y a des toilettes à bord. Il faut se rappeler que dans Apollo, il n'y avait pas de toilettes à bord.
Et ça posait problème. Hein.
Ben, ce n'était pas assez simple, hein, parce que déjà, on est tous serrés. Et puis en plus, voilà, il n'y a pas d'intimité. Quoi. Donc là, il y a des toilettes à bord. Et puis, il y a un module de commande qui travaille aussi avec l'énergie solaire, ce qui ne se faisait pas du temps des capsules Apollo. Et ce module de commande est un module qui est 100% européen.
Bravo!
Voilà. Donc c'était aussi le test de tout ce matériel.
Peux-tu nous rappeler la composition de l'équipage de cette mission Artemis 2?
Donc 4 personnes à bord. Le commandant Greg Wissem, 50 ans, qui a déjà volé une première fois, hein, c'est son second vol. Le pilote Victor Glover, 50 ans également, qui est un spécialiste du vol spatial et qui a bien appris à piloter la capsule Orion. Christina Koch, qui est la plus jeune de l'équipage, qui a 47 ans et qui est la record woman du vol le plus long en continu pour une femme. Elle a déjà passé en continu 328 jours d'affilée dans la Station spatiale internationale. Donc c'est vrai que ce n'est pas 10 jours dans la cabine Orion qui va l'embêter.
La bonne candidate. Hein.
Voilà. Et enfin, le quatrième, c'est Jeremy Hansen, qui a 50 ans et qui est canadien, qui n'est pas américain. Les 3 premiers étant américains.
Bon, là, au vu des âges que tu donnes, on voit qu'ils choisissent quand même des profils qui ont une certaine expérience dans ce domaine et une maturité.
Ce n'est pas des petits jeunes.
Oui.
C'est pas des vieux non
c'est
plus.
C'est pas... Non, hein, on ne donnera pas nos âges, mais ils ne sont pas vieux.
Voilà.
Peux-tu nous dire comment s'est déroulé le vol vers la Lune?
Donc, lorsque la fusée a décollé, donc tout s'est bien passé. Ensuite, il a fallu mettre la cabine Orion d'abord en orbite autour de la Terre. Ça a été la première étape. Et lorsqu'ils ont été autour de la Terre, ils ont fait des tests de tout le matériel à bord de la cabine avant qu'on leur donne le feu vert pour donner l'impulsion pour aller sur la Lune. Hein. Il fallait que tout soit OK. Donc tout a été OK, à part une petite panne des toilettes. Alors justement, un nouveau matériel, il y a une panne des toilettes. Et en fait, il y avait un problème d'évacuation des urines dans l'espace. Donc c'est Christina Koch qui a fait, elle s'est cataloguée elle-même, première plombière de l'espace pour déboucher tout ça.
Si donc... ça, c'est pas historique.
Et donc elle l'a fait. Alors en fait, il se trouve qu'ils auront aussi d'autres problèmes avec les toilettes durant le voyage, parce que c'est du nouveau matériel. Oui. Il faudra que ça soit réparé pour la mission future.
Parce qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, on en a parlé lors des missions historiques pour Apollo. On est d'accord que c'est important d'avoir des toilettes. Est-ce que tu peux nous rappeler comment ils faisaient l'équipe d'Apollo, justement?
Donc, il n'y avait pas de toilettes à bord. Hein, il restait 10 jours comme ça, sans intimité par rapport aux toilettes. Donc, ils avaient... c'était que des hommes.
Hein. Enfin, oui, mais bon. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas des femmes à l'époque? Oui. Non, non, non.
C'est aussi pour ça, mais pas que pour ça. Donc, ils avaient des sacs plastiques où ils mettaient les urines. Ils avaient des couches quand ils ne pouvaient pas...
Système D.
Voilà, c'était pas très pratique du tout. Hein. Donc, c'était pas bon. Donc, dans Orion, ils ont dit, on va mettre des cabines d'abord pour une cabine de WC pour une intimité. C'est à peu près la taille d'une cabine de WC dans un avion.
Hein. Oui.
C'est tout petit, mais enfin, c'est suffisant.
Bon, ça va.
C'est suffisant. Et donc, l'évacuation des urines se fait dans l'espace pour Orion. Et l'évacuation des selles se fait par l'intermédiaire des WC, mais dans des sacs étanches qui sont ramenées sur Terre et qui sont après détruites, bien entendu.
Merveilleux.
Et c'est donc l'évacuation de l'urine qui fonctionne mal sur Orion.
Et ils font comment en comparaison, justement, à bord de la Station Spatiale Internationale?
Alors, dans la Station Spatiale, ils ont un autre système, c'est que l'urine est recyclée et devient de l'eau potable. Donc,
ah,
ils
oui.
ont une usine à l'intérieur de la station.
Bon, c'est plus grand.
De retraitement, mais ils ont beaucoup plus de place que dans la cabine Orion et ils ne pouvaient pas amener ça dans la cabine Orion, ce n'était pas possible.
Donc après cette actu spéciale sanitaire plomberie, peux-tu nous dire comment c'est pour Artemis 2, comment ça s'est passé autour de la Lune et qu'ont-ils observé?
Donc ils ont fait le tour de la Lune, mais sans mise en orbite autour de la Lune. Ce que faisait l'émission Apollo, on revient toujours dessus, était en orbite autour de la Lune. Mais quand tu te mets en orbite autour de la Lune, il faut d'abord un moteur pour freiner, pour se mettre en orbite, et après un moteur qui fonctionne pour repartir, parce que sinon on reste éternellement en orbite autour de la Lune. Donc là, ils ne voulaient pas prendre de risques, et donc ils ont fait une histoire de fronde, comme un billard, quoi, voilà. Ils sont passés derrière la Lune, très loin, ils sont revenus sans avoir besoin d'un moteur, sans se mettre en orbite autour d'un moteur. Donc ils n'ont pas allumé de moteur pour cette partie-là. Ils ont pu observer la face cachée de la Lune. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on observe la face cachée de la Lune, bien entendu. S'il y a des robots qui l'ont déjà fait, il y a des astronautes qui l'ont déjà fait à la mission Apollo, mais c'est la première fois qu'on l'observe de si loin, éloigné. Les astronautes étaient à 100 km, donc c'était très près. Là, c'est la première fois qu'ils l'observent de si loin, donc ils ont fait de nombreuses photos, dont des photos célèbres qui se trouvent, bien sûr, sur le site de la NASA ou sur Internet, enfin, le lever et le coucher de Terre, hein, c'est des photos maintenant qui vont devenir célèbres. Ils ont également vu une éclipse de soleil vue de l'espace.
Donc, ce qui est, incroyable. Es jaloux, Olivier.
Ah, ben là, carrément. Et puis, ils ont trouvé un petit cratère sur la face cachée de la Lune et ils ont décidé de le baptiser Carole, qui est le nom de la femme du commandant qui est morte en 2020 d'un cancer. Donc, ça a été un moment très émouvant dans la capsule quand ils ont décidé de cela. Et ils ont observé également, alors ça fait le buzz également, des flashs lumineux sur la face cachée de la Lune.
Qu'est-ce que sont ces flashs, Olivier? Je vais te poser la question que tout le monde attend. Est-ce que c'est des signes extraterrestres?
Eh ben non.
Oh non.
Donc ils ont été très surpris parce qu'en fait, aucun robot et aucun astronaute n'avait jamais vu des flashs lumineux sur la face cachée de la Lune. Donc ils ont tout de suite envoyé les photos, les éléments à la NASA qui a analysé tout ça. Donc c'est des impacts de micrométéorites. Alors en fait, les micrométéorites sur Terre, elles se brûlent dans l'atmosphère, ce qu'on appelle les étoiles filantes.
Oui.
Là-bas, il n'y a pas d'atmosphère, donc elles tombent. Et quand elles tombent, elles se volatilisent, ce qui fait ces petits impacts lumineux sur la face cachée de la Lune.
Je vous invite, chers auditeurs, à aller voir les photos.
Oui.
Après toutes ces observations, ce fut donc le retour vers la Terre.
Oui, alors, au moment du retour vers la Terre, ils ont pu communiquer avec l'équipage de l'ISS. Donc, ils se sont échangés des recettes de cuisine, parce que en fait, la cuisine, c'était pas top. Donc, ils ont beaucoup discuté de cuisine. Bon, voilà, c'était l'occasion aussi de voir si la communication marchait bien. Donc, ils ont fait des essais pour se protéger des rayons cosmiques. On n'a pas les résultats, mais on les aura dans quelques semaines ou quelques mois. Et donc, le bouclier thermique a bien fonctionné. Il n'a pas eu de problème et ils ont pu amerrir dans le Pacifique et être récupérés.
Finalement, la mission, elle a certainement dû avoir un coût assez important. Était-elle utile? Parce qu'on avait déjà testé le projet avec la mission inhabitée Artemis 1.
Alors, au niveau du coût, oui, ça coûte cher. La mission Artemis 2 a coûté 4 milliards de dollars. Alors, pour avoir à titre d'information, ce que le Congrès américain a signalé, c'est que ça correspond à 2 jours de guerre en Iran actuellement.
Bon,
on ne juge pas, mais on remet les choses dans leur contexte.
Vaut mieux retourner vers la Lune, au final.
Voilà. Donc, le fait qu'il y ait des humains à bord par rapport à Artemis 1, où il n'y avait que des robots, les robots n'avaient jamais vu les flashs lumineux.
Oui.
Les humains les ont vus. Et puis, les robots n'avaient pas besoin des toilettes. Les humains en ont besoin. Donc voilà, il y a plein de choses à régler qui n'étaient pas prévues, qui n'étaient pas envisagées lors d'Artemis 1. Et donc, il a fallu aussi cohabiter pendant 10 jours dans un espace réduit, un 9 mètres cubes, c'est un petit van, quoi, voilà. Et donc, c'est Christina Koch, la seule femme de l'équipage, qui a dit cette phrase au retour. « Nous sommes partis amis et nous sommes revenus bons amis. »
Belle note positive.
Voilà.
On peut dire qu'une nouvelle page de l'aventure spatiale s'est déroulée en ce mois d'avril 2026. Il faudra bien sûr plusieurs mois pour débriefer et régler les problèmes mis à jour lors de cette mission avant d'entamer la suite du projet Artemis, à savoir le retour des humains sur la Lune.
Et nous en parlerons dans les mois qui viennent. Nous allons faire une pause musicale. Qu'allons-nous écouter maintenant, Aurélie ?
Eh bien, je vous propose d'écouter de l'actu, Céline Dion, J'irai où tu iras.
Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux dépensent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine.
Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciel. Va pour les temps, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule, où des bras me serrent.
J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe ma place, qu'importe l'endroit.
Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des visets en boutant. Des caravanes et des voyages comme sur les dépliants.
Va pour tes cocotiers, tes rivages. Va pour tes lagons tout bleu balançant. J'habite où l'amour est un village, là où l'on m'attend.
J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit.
On fait cliquer tes claques et tes rêves et ta vie.
T'es monté tabernacle et ta langue est d'ici.
Pour péter la poudre et la fille de l'air.
Montre-moi tes éternes, montre-moi tes enfers.
Tes nord et puis tes sud et tes est et d'ouest.
Bien, nous nous retrouvons toujours sur l'émission Quoi de neuf là-haut avec le chaos.
Bonjour
David,
Olivier.
Bonjour Elios.
Bonjour Olivier.
Elios, quelle va être ta question pour ce mois de mai ?
C'est quoi l'énergie noire ?
Ah bah oui, alors tu nous fais des choses très simples hein, pour un mois de mai.
On est dans quelque chose, de, ça va être répondu très rapidement. Mais effectivement, c'est une très très vaste question. Ouais. Mais tu fais bien de la poser parce que souvent on s'y perd un peu. Alors qu'est-ce que tu as entendu dire sur l'énergie noire déjà ?
Qu'on ne pouvait pas l'avoir, je crois.
Ouais.
Et puis bah, c'est tout.
D'accord. Donc c'est effectivement, c'est difficile de s'y retrouver aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de choses, on entend parler de matière noire aussi, d'énergie noire, alors on dit est-ce que ça a quelque chose à voir avec les trous noirs, et puis on entend que ça représente une grande partie de notre univers mais qu'on ne peut pas l'avoir, donc on s'y perd très vite dans tout ça. Alors déjà, on va peut-être séparer les choses pour identifier ce que c'est et ce que ce n'est pas. Donc l'énergie noire et la matière noire, ce sont deux choses complètement différentes. Donc c'est important de bien garder à l'esprit ça. Et pour expliquer ce que c'est que l'énergie noire, il faut qu'on parle un petit peu d'expansion de l'univers. Est-ce que tu as entendu parler de cette notion-là, l'expansion de l'univers ?
Oui. C'est l'univers, il est en perpétuelle expansion.
Ouais.
Du coup, je crois que tout est attiré, non ? C'est pas un truc comme ça ?
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que l'univers est effectivement en expansion, c'est-à-dire que les distances entre les objets, entre deux galaxies, entre deux étoiles, les distances augmentent au fil du temps. Et ça, c'est la résultante du Big Bang, c'est-à-dire que le Big Bang, c'est une grande impulsion initiale qui étend l'univers tout d'un coup. Et on pourrait s'imaginer qu'il y a cette impulsion initiale, tout d'un coup l'univers grandit très vite, et puis qu'au fil du temps, eh bien, cette expansion de l'univers, elle va ralentir. Comme on a de moins en moins d'énergie, donc au bout d'un moment, elle décélère et puis elle s'arrête. Alors déjà, la première question, c'est comment est-ce qu'on mesure cette expansion de l'univers ? Donc on a observé... ce qu'on appelle des chandelles stellaires, c'est en fait des supernovas dont on est capable très précisément d'identifier la distance à la Terre. Et puis, on s'est rendu compte, en observant les chandelles stellaires qui sont très loin, on mesure ce qu'on appelle un décalage vers le rouge. C'est-à-dire que plus elles sont loin, plus leur lumière se décale dans le rouge, et on comprend qu'en fait, ça veut dire qu'elles s'éloignent de nous. Et on s'est rendu compte que plus ces chandelles standards elles étaient loin de nous, plus elles se décalaient de manière importante dans le rouge. Ça veut dire que plus un objet il est loin de nous, plus il se déplace vite. Et donc ça, c'est la conséquence d'un univers qui s'étend.
Est en expansion.
Et le problème qu'on a, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui dans les mesures que alors qu'on pouvait s'imaginer que l'univers allait décélérer, c'est-à-dire que cette expansion elle allait ralentir, et bien au contraire, elle accélère. Et ça pose un vrai problème, parce que s'il y a une impulsion de départ, si cette vitesse elle accélère, c'est qu'il y a bien quelque chose qui la pousse à accélérer. Si tu tapes un ballon du pied, au bout d'un moment, il va finir par s'arrêter, il ne va pas accélérer à l'infini.
Et donc c'est soit l'accélération est constante, soit elle diminue, mais... qu'elle augmente, c'est un vrai souci.
C'est ça. Et donc, les scientifiques ont imaginé ce qu'ils ont appelé l'énergie noire, qui serait l'explication d'une forme d'énergie qu'on ne peut pas voir, mais qui agit dans l'univers, et qui est une force de répulsion, c'est-à-dire une force qui contrebalance la gravité et qui accélère ce phénomène d'expansion de l'univers.
Mais du coup, ça n'existe pas vraiment. Enfin, on n'est pas sûr à 100%, c'est qu'une justification. Enfin,
eh bien, aujourd'hui, c'est la seule explication qu'on a pour expliquer les observations. Mais effectivement, comme tu dis, c'est très problématique parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas observer et dont on ne connaît même pas l'essence. C'est-à-dire qu'on suppose sur le papier qu'il y a une force, que cette force, elle doit faire quelque chose. On est capable de mesurer la quantité de cette énergie qu'il doit y avoir dans l'univers. Mais c'est tout. C'est une explication qu'on vient coller comme une rustine sur les formules mathématiques de la physique pour coller à ce qu'on observe dans l'univers.
Et du coup, c'est qui l'a conçu un peu cette énergie noire, qui l'a inventée, qui a eu cette idée ?
Alors, l'énergie noire, il n'y a pas une personne qui a vraiment... eu l'idée. Il y a deux équipes indépendantes qui ont fait cette observation de l'expansion de l'univers. Il y a des astronomes qui s'appellent Saul Perlmutter, Brian Schmidt, Adam Riess. Mais en fait, c'est un espèce de consensus scientifique. Il y a plusieurs équipes qui ont travaillé sur ces concepts-là. C'est pas une personne qui a déjà découvert l'énergie noire. On peut pas parler de découverte parce que on l'a pas observée. Aujourd'hui, c'est une théorie. Mais en fait, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est s'il y a cette énergie noire, qu'est-ce que c'est ? Et là, il y a plusieurs théories. Et des théories qui ne sont pas complètement satisfaisantes. Alors, la première théorie, elle serait de dire que ça serait ce qu'on appelle l'énergie du vide. Alors, sans rentrer trop loin dans la physique, mais aujourd'hui, on a du mal à... rendre cohérente entre eux la physique de tous les jours, c'est-à-dire des échelles qui nous intéressent, on voit les étoiles, on se voit nous, les atomes, etc., et la physique de l'infiniment petit, ce qu'on appelle la physique quantique. Et ça, les règles, elles ne sont pas communes. Il y a des choses qui fonctionnent dans un monde qui ne fonctionnent pas dans l'autre. Et il y a toute une théorie qui dit qu'en fait, le vide, à l'échelle quantique, il aurait une énergie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste du vide, il y a une énergie intrinsèque du vide et que c'est une énergie négative. Et donc on a calculé, on s'est dit, bah peut-être que l'énergie noire, c'est cette énergie du vide qu'on n'observe pas à grande échelle parce que, voilà, elle nous invisible, mais à l'infiniment petit, on peut l'observer, on peut la mesurer. Le problème, c'est quand on mesure cette énergie du vide et qu'on l'étend en disant bah, quelle quantité d'énergie du vide il doit y avoir dans tout l'univers, et ben, on se rend compte que par rapport à la quantité d'énergie que représente l'énergie noire, en fait, l'énergie du vide, elle devrait représenter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et quand je dis beaucoup plus, c'est de l'ordre de 120 ordres de grandeur. C'est 10 puissance 120 fois, donc un 1 suivi de 120 zéros, fois plus grand que ce qu'on observe dans l'énergie, avec l'énergie noire.
C'est-à-dire que l'univers serait beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que ce qu'on a pu imaginer.
Ben, c'est même pas forcément tant une question de puissance, c'est que ça nous pose un deuxième problème. C'est-à-dire qu'on avait déjà un problème, et en cherchant la solution, on se rend compte qu'il y a un problème encore plus grand qui est derrière. C'est que si on a mesuré correctement effectivement cette énergie du vide, non seulement elle compense la question de l'énergie noire, mais elle la compense 120 fois trop. Donc ça veut dire qu'il se trouve, il y a encore un autre phénomène dernière qui vient compenser dans l'autre sens, et qui est encore plus grand, et que celui-là qu'on ne peut pas observer. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, on est paumé complètement. Les équipes de recherche, elles sont à fond là-dessus pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que c'est tellement un problème que il y a des scientifiques qui travaillent sur le sujet qui ont appelé ce problème-là la catastrophe du vide. C'est-à-dire que quelqu'un a eu une idée en se disant « Eh, si c'était l'énergie du vide, calculons, on va voir. » Et il a ouvert une boîte de Pandore où tout le monde s'est dit « Oh là là là, qu'est-ce qu'on a fait ? » On s'est rendu compte qu'en fait, non seulement on était paumé, mais là on a encore plus paumé en cherchant la solution. Donc j'imagine que tout ça ne répond pas beaucoup à tes questions sur ce qu'est l'énergie noire, mais je te rassure, il n'y a pas grand monde aujourd'hui dans le monde de la physique qui est capable d'expliquer ce qu'est l'énergie noire, malheureusement.
Du coup, on ne sait pas.
C'est l'un des domaines de recherche les plus actifs aujourd'hui en physique. Donc c'est peut-être l'occasion d'avoir une vocation et de devenir toi-même physicien pour essayer de résoudre ce problème-là. Les choses que ça peut impliquer, c'est simplement que nos calculs de base ne sont pas bons, c'est-à-dire que notre compréhension de l'univers, nos calculs mathématiques ne sont pas bons. Alors ça pose tout un tas de problèmes, mais peut-être qu'en essayant de mettre des rustines sur quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est peut-être le signe simplement que nos équations du départ ne sont pas bonnes et qu'on a une mauvaise compréhension de ce qu'on observe et de la physique fondamentale. Il y a une autre option, c'est qu'il y a des équipes de recherche qui aujourd'hui sont en train de remettre en question l'accélération de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ont refait des mesures et qui, d'après leurs calculs, se rendent compte qu'en réalité, l'univers est en décélération. Et donc, aujourd'hui, il y a des équipes qui s'affrontent en disant, bah, certaines disent non, l'univers est bien en train d'accélérer et on a un problème. D'autres qui disent, bah, non, l'univers est en train de décélérer et du coup, bah, s'il décélère, on n'a plus ce problème d'énergie noire parce qu'on n'a plus à expliquer une accélération. Donc on attend aujourd'hui pas mal de précisions de la part de nouveaux outils. Il y a un instrument qui s'appelle l'instrument DESI, qui est installé sur le télescope Mayall en Arizona, qui est un grand télescope de 4 mètres de diamètre, et qui en fait va commencer à cartographier des millions de galaxies sur 11 milliards d'années d'histoire cosmique pour identifier vraiment avec précision, non pas comment l'univers s'étend, mais à quelle vitesse il s'étendait aux différentes époques de notre univers. Et donc pouvoir vraiment tracer une courbe précise de quelle est l'accélération ou la décélération de cette expansion. Et donc quand on aura un peu plus des résultats un peu plus précis avec cet instrument, on y verra peut-être un peu plus clair. En attendant, on ne sait pas.
Bon, en tout cas, ta question reste une énigme qu'on résoudra ou pas dans les années qui viennent. Merci en tout cas de l'avoir posé. On va dire comme tout homme politique, c'était une bonne question. Merci, bonne soirée sur Hervé.
Bonne soirée à tous.
Vous venez d'écouter l'émission « Quoi de neuf là-haut avec le chaos ?»